Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, avec, comme d'habitude, Romain Fati. Bonjour Romain.
Bonjour Grégory, bonjour auditeur.
Avec vous, comme d'habitude, notre historien quasiment maison, donc vous êtes en garde partagée avec l'Australian National University, on va s'intéresser à une affaire qui a véritablement fait frémir toute l'Australie dans les années 80, une affaire qu'on appelle en anglais les Family Court Attacks. Et en gros, c'est une série d'attentats qui ont frappé donc des tribunaux, aux affaires familiales, mais qui ont aussi se sont traduits également par des assassinats ciblés de certains juges. Et cette affaire, le plus fou, c'est qu'elle n'a été résolue que plus de 30 ans après que les faits aient été commis. Donc Romain, on parle, comme je le disais, d'une série d'attaques personnelles, mais aussi d'attentats à la bombe, qui au total ont fait 4 morts. 2 personnes ont été tuées par arme à feu, 2 autres dans des explosions. Et les 2 premiers ont été tués par balle en sortant de chez eux. On peut parler d'assassinat. Le premier d'entre eux est un homme qui s'appelle Stephen Blanchard. Il est abattu en février, puis en juin 80. Le premier est un homme qui s'appelle Stephen Blanchard. Il est abattu en février, et puis en juin de cette même année 80, c'est un juge aux affaires familiales, David Hoppas, qui est également tué. À ce stade, Romain, on ne sait pas du tout ce qui relie ces 2 meurtres, ni même s'ils le sont. Et puis ce qui rend cette affaire exceptionnelle, c'est que c'est la première fois dans l'histoire australienne qu'un juge est tué dans l'exercice de ses fonctions.
Oui, alors, on ne sait pas ce qui relie ces 2 meurtres, oui et non. Je ne vais pas rejeter la faute sur la police de Nouvelle-Galles du Sud de l'époque, mais enfin, les auditeurs, comment dirons-je, seront juges justement de si elle a bien travaillé ou non. On va redécoudre et reprendre les choses depuis le début. Je dois vous avouer que vous m'avez fait travailler beaucoup plus que d'habitude sur cet épisode, parce que y a l'aspect droit et technique, mais il y a aussi l'aspect fait divers qui, en fait, on va en parler, représente pas mal d'autres évolutions à l'échelle nationale qui sont importantes. Alors, on remonte dans le temps. 2 jeunes gens se rencontrent. Andrea Blanchard, elle a 18 ans à l'époque. Elle rencontre donc Leonard Warwick et puis se mettent ensemble. Ça se passe pas très bien depuis le début. Elle racontera par la suite qu'en fait, il est assez violent. Mais elle se dit que peut-être... Peut-être ça passera, peut-être qu'il va s'adoucir. Ils se marient et ils ont un enfant. Et en fait, Léonard ne s'adoucit pas, c'est le contraire. Il continue à perpétrer de la violence domestique sur son épouse. On parle de coups et blessures, hein, c'est très violent. Il la traîne par les cheveux dans le couloir, enfin des choses absolument horribles. Sa belle-sœur le qualifie déjà de « monstre ». Et donc, Andrea se dit, il m'enferme dans la maison, elle arrive à se sauver. C'est-à-dire qu'il a mis des verrous sur les portes, il l'enferme très littéralement chez elle. Et puis, elle se dit, en fait, je vais finir morte. Le seul moyen que j'ai, c'est de partir, de m'évader de chez moi. Hein, je suis mariée avec cet homme, on a une maison. C'est de m'évader et de partir prendre refuge chez mon papa et où vit également son frère. Donc, elle part, ne revient pas et puis se pose la question de la garde de leur petit enfant, Trudy. Et commence les rendez-vous au tribunal, après rendez-vous au tribunal, après rendez-vous au tribunal pendant des années et des années. Bon, ça, on va en parler. Ce qui se passe, c'est qu'en 80, alors que effectivement, hein, ils se sont séparés, Léonard menace sa femme parce qu'il veut avoir accès plus souvent à sa fille en lui disant « tu sais que je pourrais éliminer ton père ». Et elle lui dit « ce serait bête parce que la police s'en chargerait ». Et il lui répond « tu sais, c'est pas grave, tu seras la prochaine ». Bon, bref, quelques semaines après, on retrouve le frère d'Andrea, donc Stephen, le premier meurtre dont vous avez parlé. On le retrouve avec une balle dans la tête, dans le haut, lesté de briques, avec un corps qui a déjà été bien attaqué par les requins. Et une découverte vraiment par hasard, c'est un peu macabre hein, pour ceux qui nous écoutent qui sont à Sydney, ça s'est passé dans le parc national Ku-ring-gai. Hein. Et donc, effectivement, la police essaie d'enquêter, mais pas de preuves, n'arrive pas à faire avancer, il n'y a pas les techniques de notre époque. Simplement, Andrea, évidemment, a ses doutes sur son mari, il l'a menacé de mort, ainsi que son père. En parallèle, quelques mois plus tard, effectivement, vous avez l'assassinat du juge aux affaires familiales, David Hoppas. Et là, c'est assez terrible, hein. Monsieur Hoppas est en train de dîner avec sa famille, avec ses enfants. Il entend sonner à la porte, il ouvre la porte et il se fait tirer dessus à faible distance dans l'estomac, en fait. Et il meurt de ses blessures assez rapidement. Alors là, effectivement, ça fait les unes nationales, à la fois journaux, radio, télévision, parce que c'est la première fois qu'un juge est abattu en fonction. Là, il ne s'agit pas d'un fait où ça s'est mal passé, où il y a une bagarre. Non, on sonne à la porte, on l'abat. Bon, c'est très clair. Donc, la police est sur l'affaire. Et effectivement, rien ne relie ces deux meurtres a priori. On parle d'un jeune homme surfeur qui se retrouve lesté avec une balle dans la tête. Bon, c'est rare, mais ça peut arriver. Ça pourrait être une affaire de drogue, on ne sait pas. Et de l'autre côté, un juge aux affaires familiales. Donc, là, c'est un peu plus simple entre guillemets d'enquêter, bien que ce soit plus compliqué paradoxalement, parce que la police se jette sur les dossiers du juge, épluche les profils des 30 personnes qu'il avait vues dans cette journée même et les plusieurs centaines d'affaires qu'il traite. Donc c'est un travail de fourmi absolument monumental. Et dans le cadre effectivement de cette enquête, comment il s'appelle? Léonard Warwick est interrogé. Il dit non, moi j'ai rien à voir là-dedans. Alors qu'il n'a pas d'alibi, ils le mettent en garde à vue. C'est assez particulier comme histoire parce qu'en fait, ils vont fouiller chez lui, ils ne trouvent rien. Ils vont à son travail et ils trouvent des découpes de presse qui parlent du juge, effectivement. Alors il continue à chercher et en fait, chez lui, il retrouve du papier toilette qui appartient à son lieu de travail, qui se trouve être les pompiers de Nouvelle-Galles du Sud. Et donc la police leur dit, on va vous détenir parce que vous avez volé du papier toilette. Il leur dit, bah, écoutez, très bien. Et puis, en fait, il ne parle pas. Donc, dès le début, c'est quand même le suspect principal, et il est lié quand même aux deux meurtres, c'est-à-dire qu'il est le beau-frère de la personne retrouvée morte avec une balle dans la tête dans l'eau. Et il a été traité, un des dossiers traités par le juge, sachant que ce juge-là lui avait donné déjà plusieurs injonctions de rendre sa fille à l'heure telle qu'il était convenu dans le cadre de la garde parentale, ce qu'il ne faisait pas régulièrement. Donc la police sait déjà qu'en fait c'est un profil un peu qu'il va falloir surveiller.
Et pourtant, enfin, vous le dites, enfin, il y a un lien finalement assez simple à établir entre ces deux cas. Un juge qui a traité le dossier de l'un des suspects. Il se trouve que son beau-frère est mort récemment. On imagine en plus que dans le dossier du juge, on doit savoir les histoires de violences conjugales, dossier sur la garde de l'enfant qui, j'imagine, ne lui a pas été favorable. Et pourtant, à ce stade, donc vous le dites, suspect, mais pas plus que ça.
Ben oui, parce qu'en fait, ça paraît. Pardon, c'est important de revenir là-dessus. Ça paraît un peu évident parce que nous, voilà, on connaît la fin de l'histoire. En revanche, à l'époque, vous ne pouvez pas vous présenter devant un tribunal en voulant juger quelqu'un pour meurtre si vous n'avez pas des preuves très, très, très solides.
Au-delà de
Sinon,
tout doute raisonnable, oui, comme on dit.
voilà. Sinon, vous vous retrouvez avec un meurtrier dans la nature. Donc la police sait qu'elle doit avancer doucement pour trouver des preuves. Or, des preuves, il n'y en a pas. Et c'est bien ça le problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trace ADN, il n'y a pas d'arme qui est retrouvée, il n'y a rien de vraiment tangible qui pourrait permettre à la police d'arrêter Léonard de façon plus longue, de le mettre en garde à vue, puis incarcéré, pour attendre un jugement. Parce qu'en fait, il ne trouve rien.
Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur cette histoire d'attaque visant le tribunal aux affaires familiales en Nouvelle-Galles du Sud. On se retrouve dans quelques jours pour la suite de cette histoire. On va s'intéresser aux attentats à la bombe qui vont être commis quelques années plus tard. On expliquera également que ces attaques interviennent alors que le droit de la famille en Australie a été profondément modifié quelques années seulement avant. À très bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.